voulais savoir pour vous, qu'est-ce que ça veut dire international?
Pour moi, internationaliste, c'est la définition, c'est la solidarité internationale des travailleurs par-delà les frontières. Moi, je pourrais même dire que je suis aussi antinationaliste ou anationaliste, si on veut aller plus loin. Mais en tout cas, ça, c'est la définition connue. C'est d'ailleurs à peu près la seule définition existante. C'est une définition politique, l'internationalisme. Donc après, qu'on soit d'accord ou pas, on doit porter à crédit du fait que c'est une définition qui a été forgée au XIXe siècle, à la naissance du marxisme et de l'anarchisme, en fait, dans les premières internationales.
Moi, je voudrais juste essayer de clarifier deux choses. La première, c'est que je pense que l'extrême droite, c'est pas je le pense, c'est l'extrême droite est anti-cosmopolite. Cosmopolite, qui est le cosmos, le cosmopolitisme est une des tares des bourgeoisies enjuivées dans le discours de l'extrême droite,
ah, oui, oui.
Qui n'a rien à voir avec l'internationalisme.
Non, bien sûr. Bien sûr, non, voilà. On est d'accord.
Donc, qu'est-ce que c'est, à son sens, l'internationalisme? Si tu veux, c'est une forme de la confusion. De la confusion qu'entretiennent par le langage, les glissements sémantiques ou les emprunts que font ces groupes confusionnistes, parce que en répondant à des questions sur un terme, tu passes à côté du contenu de la question. J'ai remarqué aussi ça, c'est que lorsque, à l'époque des années 60 et 70, on parlait souvent, on ne parlait pas d'altermondialisme, mais s'agissant des oligarchies militaires d'Amérique du Sud, donc ce n'était pas un terme européen, mais cela désignait quelque chose de précis, à la fois les bourgeoisies compradors de cette époque-là, ce qu'on appelait bourgeoisie comprador, ça veut dire acheteuse, de ces pays-là, et les castes militaires, c'est-à-dire que l'oligarchie désignait à la fois la caste militaire et les prébendiers, c'est-à-dire les couches aisées, qu'elles soient commerçantes ou intermédiaires, qui prenaient leur dîme sur l'amortissement du capital américain. Le capital américain venait pour l'extraction des matières premières, et il y avait des intermédiaires de cette bourgeoisie comprador avant qu'il n'y ait même la notion de bulle financière. Voilà. Ça, ce sont deux. Donc l'extrême droite emprunte au langage altermondialiste. Des fois, elle remet en selle des termes d'avant-guerre qui sont, comme tu l'as très bien montré, à propos des banksters, si tu veux. Mais il ne faut pas oublier que dans les termes tels qu'ils sont employés, il y avait un contenu initial.
Ben, moi, je parle du contexte français. Hein. Même pour les banksters, je suppose qu'en anglais, le jeu de mots étant bien plus facile à faire, il doit exister. Dans un contexte francophone et notamment français, c'est un terme dont l'origine est située dans l'extrême droite antisémite des années 30, reprise ensuite, enfin, réhabilitée par Jean-Marie Le Pen à l'aune de la crise de 2008. Sur l'oligarchie, je ne suis pas spécialiste de l'Amérique latine, donc certainement, mais les termes peuvent varier selon les espaces culturels, et moi je parle spécifiquement du champ francophone et notamment français. Donc après, je ne sais même pas, est-ce qu'au Québec, par exemple, on ne l'emploierait pas dans un sens différent, mais ce n'est pas mon propos. C'est
c'est un peu dur quand même de s'enlever du langage un mot comme... je ne sais pas si c'est ce que tu veux dire, mais moi c'est un mot que j'ai entendu.
Oui, c'est un mot très courant.
Et ça m'a plu, je veux dire... Je ne sais pas si les gens qui l'ont utilisé sont forcément...
Non, ce n'est pas mon propos. C'est justement ça le problème. C'est que justement, c'est un mot qui passe dans le vocabulaire courant. Ah, ben, bankster. Ben oui, ça séduit, forcément, c'est un jeu de mots, c'est vachement marketing, banksters, comme jeu de mots, ça, c'est vachement...
Oui, mais je veux dire que je trouve que c'était un bon mot.
Ben, pour moi, il y a deux problèmes. Il y a son origine d'extrême droite et le fait que, justement, plein de gens l'emploient hors d'un contexte d'extrême droite, ça montre que, eh ben, justement, les idées d'extrême droite et son vocabulaire, on le vend en poupe. Ça ne veut pas dire que les gens qui l'emploient sont d'extrême droite. Et par ailleurs, moi, la concentration sur les banques, ça dit rien du fonctionnement du système capitaliste. Si on veut avoir une analyse un peu rigoureuse du c'est comme de dire parler que d'ultralibéralisme sans jamais parler de capitalisme. L'ultralibéralisme n'est qu'une des formes historiques que prend le capitalisme. Donc si on est anti-libéral, par exemple, on n'est pas forcément anti-capitaliste. C'est d'ailleurs exactement ce qu'est Lordon. Lordon, c'est en fait un keynésien, donc c'est pas du tout un anti-capitaliste. C'est de l'alter-capitalisme, on pourrait dire, quelque part, ou de l'alter-nationalisme, mais c'est pas... Et donc c'est ça aussi qu'il y a derrière, quoi. C'est que se concentrer sur des têtes de turc comme les banquiers, tout bien sûr que les banques ont une influence dans le système capitaliste, personne ne saurait le nier, ce serait idiot de dire le contraire. Mais par contre, voir qu'à travers cette lorgnette et analyser le système économique qu'à travers cette lorgnette et en employant ces mots-là, ben, ça détourne complètement pour moi de la question sociale, en fait. C'est ça le problème de fond aussi.
Oui, je pense que pour gangster, effectivement, c'est un terme anglais qui fait littéralement de gangster.
Oui, c'est ça, oui.
Par contre, je ne suis pas tout à fait sûr que je sois d'accord avec ce que vous dites quand je vous dis ça prouve que les idées, on le voit en couple, le fait que des trucs soient repris. En fait, c'est une capillarité qui est insidieuse, qui est.
Oui.
C'est pas quelque chose de. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une adhésion, le terme il est repris parce qu'il est rigolo, et donc c'est pas forcément le signe.
C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire, ouais.
Si tu peux me permettre, c'est le type de tempère, si j'ai compris, c'est la notion de confusionnisme.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que le fascisme, c'est quoi? C'est quand finalement un système n'arrive plus à contrôler. Les conflits sociaux ou des résistances dans la population et a besoin de recadrer les choses dans une unité, dans des unités territoriales, culturelles, identitaires, raciales, normatives, religieuses. Ça peut prendre plusieurs formes. On y est un peu. Et c'est jamais un hasard si les fascismes y montent en puissance de façon concomitante dans des pays voisins à des périodes identiques. C'est jamais chacun son tour, on y est aussi. Et donc, le fait que ça puisse se répercuter par capillarité ou par micro-impact dans tout un tas de trucs, y compris la pédagogie alternative, moi, Steiner, je les ai parlé depuis un moment, mais c'est vrai que du coup, ça décrédibilise Freinet, ça décrédibilise Montessori, ça décrédibilise tout ce qu'il y a de critique pédagogique de l'institution et de l'école bourgeoise. Je suis prof à l'éducation nationale. Mais tout ce qui, dès lors, peut être amené comme une alternative à l'école normative, du coup, peut être décrédibilisé par des gens comme Steiner.
Oui, alors.
Dans l'argent, il y a l'école Steiner et.
Oui, je sais, il y en a beaucoup. Je vois une différence entre Montessori peut-être et Freinet, c'est-à-dire que Montessori est issu de la même tradition que Steiner et notamment de, comment ça s'appelait, le mouvement qui a précédé là. Non, Waldorf, ça c'est, oui, le nom des écoles Waldorf-Steiner, mais il faisait partie de la société théosophique dans les années 10 Montessori. Et il y a un côté un peu mystique dans la pédagogie Montessori. Par contre, Freinet est issu du mouvement, donc c'est quand même une différence notable, je vais dire, au niveau... Après, mais sur Mussolini, sur le fascisme et sur ce que tu dis, en fait, c'est pas tout à fait nouveau, ces capillarités. Moi, quand je dis les idées d'extrême droite, on le voit en poupes, je veux pas dire tous les gens qui emploient ces termes sont d'extrême droite. Je veux dire simplement, ça devient normal d'employer ces termes sans même plus y réfléchir, des termes venus de l'extrême droite et qui font son jeu. Et en fait, on est quand même, si on veut parler en termes d'hégémonie culturelle, actuellement, dans une période d'hégémonie culturelle réactionnaire. Et je pense que quelqu'un comme Alain de Benoît, qui dans les années 70 théorisait en se basant sur Gramsci, sur la conquête de l'hégémonie culturel, aujourd'hui il doit bien se marrer. D'ailleurs, il se marre puisqu'on le voit apparaître maintenant diversement dans des médias, alors que c'était quelqu'un de très discret. C'est le théoricien français de l'extrême droite. Et d'ailleurs, c'est peut-être c'est malheureux, mais s'il y a bien un intellectuel qui a inventé quelque chose dans les 30 dernières années, malheureusement, c'est peut-être Alain de Benoît, hein, avec tout ça, avec son Grèce, avec sa Nouvelle Droite. C'est vraiment un truc. Et dans les revues de la Nouvelle Droite. Et au début des années 2000, on pouvait voir des signatures comme celle, entre autres, de Jean-Luc Mélenchon, de Serge Latouche, enfin de gens comme ça. Et aujourd'hui, il vient de lancer Signe des temps, Élément, qui était jusque-là une revue relativement chère et réservée donc à cette frange intellectuelle d'extrême droite. Il l'a lancé en kiosque il y a quelques mois. Avec en couverture, on a eu Michel Onfray, on a eu. Comment il s'appelle l'autre économiste souverainiste d'ailleurs. enfin, ça va me revenir. Enfin bon, bref, on a eu, et là dernièrement, on a eu des anciens Mao de mai 68 qui faisaient leur conversion publique. Alors notamment à propos d'éducation, Brigelli, hein, qui est assez connu, qui était Mao en 68 et qui aujourd'hui prône toute l'idéologie de la droite sur l'éducation, quoi, que les valeurs se perdent, qu'on enseigne l'arabe, quelle catastrophe à l'école, enfin c'est horrible ce qui y arrive. La théorie du genre, évidemment, bien sûr, c'est comme ils disent. D'ailleurs, théorie du genre, c'est en fait un terme à eux, parce qu'il y a des études de genre à l'université, il n'y a pas une théorie du genre. Et il y a plusieurs écoles au sein de ces études de genre qui, parfois, d'ailleurs, ne peuvent pas s'entendre entre elles. Donc ça n'existe pas, ça, c'est un terme. Mais bon, voilà. Et après, sur le fascisme, quand même, à la base, Mussolini, il ne faut pas oublier d'où il vient. Il a été anarchiste, il a été socialiste. Et il a introduit ce mélange des genres dans le fascisme. Il y a aussi des origines françaises au fascisme. Dans les années 10, autour du cercle Proudhon, un machin qui s'appelle le cercle Proudhon dans les années 10, ce n'est pas un mouvement anarchiste. C'est un mouvement de convergence entre l'action française, donc royaliste légitimiste, la frange la plus dure du royalisme, et le syndicalisme révolutionnaire, en fait. Donc tout ça, c'est pas non plus nouveau. Il y a eu des périodes dans l'histoire. Le boulangisme, c'est sans doute historiquement en France la toute première expérience, on peut dire, de confusionnisme à la fin du 19e siècle, quoi, avec cette crise parlementaire, c'est ce général Boulanger qui surgit comme l'homme providentiel et qui était effectivement soutenu par des franges socialistes, des franges monarchistes et des franges royalistes. Donc, qui a fait un peu ça. Donc, c'est pas nouveau. Et en fait, bon, après, c'est des périodes historiques. Hein. Il y a des moments où c'est plutôt l'idéologie de gauche qui va avoir le vent en poupe, des moments où c'est plutôt l'idéologie réactionnaire. Actuellement, c'est l'idéologie réactionnaire. Donc, s'imaginer, par exemple, qu'en empruntant à l'extrême droite son vocabulaire et en le retournant, on va pouvoir le combattre, en fait, non, on va faire son jeu en contribuant à le redéfinir comme ils veulent, en fait, le redéfinir. Ils ont aussi redéfini le racisme. Ils parlent d'ethno-différentialisme. Ça, c'est vient de la nouvelle droite. Et maintenant, toute l'extrême droite parle d'ethno-différentialisme. C'est-à-dire que il n'y a plus de race, encore moins de race illégale. On se situe sur le terrain de la culture et non plus sur le terrain biologique. Et on dit que toutes les cultures sont égales, mais qu'il faut préserver la pureté des cultures respectives, en fait. Et c'est lié à l'écologie. C'est-à-dire qu'il y a des discours, par exemple, le programme écologique du Front National lie la question écologique à la question des flux migratoires. C'est-à-dire que quand le Front National parle de relocalisation, il s'agit de relocaliser non seulement économiquement, mais aussi culturellement, en fait. C'est tout à fait... Et ça, c'est de Benoît aussi. Hein. D'ailleurs, ça fait très, très longtemps que sur les sites de Crisis et Éléments et de Revue, il y a une rubrique décroissance. C'est même la première, je crois, qu'on voit sur le site d'Éléments. Donc, ça fait très très longtemps, en fait, aussi qu'il y a ces liens. Mais là, il doit rigoler, parce que ça... Alors qu'il était groupusculaire dans les années 70 à réfléchir à ça dans son coin avec un petit groupe d'intello, mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est que, en fait, ça arrive à son terme, ce processus, et quelque part, pour le moment, j'espère que ça va pas être définitif, ils sont en train de gagner. La démonstration, l'exemple le plus flagrant, c'est ce qu'on appelle la normalisation du Front National, quoi. C'est vraiment l'exemple le plus flagrant de ce truc, avec y compris des reprises de thématiques sociales qu'on retourne, etc. Le fait qu'effectivement, on lisse complètement les discours, qu'on puisse même défendre, pourquoi pas, les droits des femmes ou de ceux des homosexuels pour mieux taper sur les musulmans ou les immigrés. Enfin, c'est quelque chose...
Le fait d'entendre la confusion et d'avancer masqué, est-ce que c'est pas, quelque part, un peu rassurant, je veux dire, c'est pas si...
Ben moi, je ne sais pas si je préfère pas avoir affaire à un vrai nazi qui s'assume comme tel et avec lequel on peut, si tu veux, qu'à des types qui... Enfin, ça n'a pas le même sens. C'est-à-dire que le vrai nazi va être dangereux physiquement, et puis il va avoir développé une idéologie dangereuse, mais à la limite, il ne va pas forcément remporter l'adhésion parce que ça va être très caricatural. Là, ce qui est pervers, c'est qu'en fait, ils se présentent tous comme des démocrates, comme des tolérants. J'ai eu des conversations, des fois, c'est intolérant de vouloir virer des fascistes, des réunions et des machins. Enfin, on inverse complètement le truc, quoi. Ça devient du grand n'importe quoi. C'est intolérant, il faudrait discuter avec tout le monde, avec des confusions entre ce qui relève de la liberté d'expression et ce qui relève d'une ligne éditoriale. Par exemple... le fait qu'un média ne devrait pas refuser de publier des tribunes de tous les côtés. Enfin, je suis désolée, la liberté d'expression, c'est que chacun a son blog, à la limite, ou son site, et exprime ses idées. Après, les médias ont tout à fait le droit d'avoir une ligne éditoriale, mais même les médias militants, je veux dire, c'est oui, politique, ça, c'est un truc. Et ça relève de la liberté de la presse. Ce serait tout aussi scandaleux d'imposer aux médias de toutes sortes de donner la parole à tout le monde que d'interdire certains, à la limite, certaines prises de parole. Là, il y a une vraie... Mais je trouve ça que, du coup, c'est extrêmement dangereux. Je ne sais pas vers quoi on se dirige, mais on pourrait se diriger vers quelque chose de... même de, je sais pas, de régime, pourquoi pas, un peu autoritaire qui savourait pas comme tel, je sais pas trop, quoi. C'est dur de faire de la prospective, mais le risque est pas forcément absent, quoi, de se diriger vers quelque chose comme ça.
Il y a un mot que vous employez souvent, donc c'est l'antisémitisme. J'aimerais bien avoir votre définition, parce que pour moi, c'est pas bien clair.
C'est-à-dire ? Qu'est-ce qui est pas clair dans le mot ?
Je sais pas. Vous l'employez plusieurs fois.
L'antisémitisme, dans la définition la plus courante, en tout cas dans sa forme moderne, qui date de la fin du 19e, c'est la haine des Juifs. Soit en tant que pratiquant d'une religion, soit en tant que peuple, ou soit que même juif réel ou supposé, d'ailleurs, enfin, parce que ça peut toucher...
Les Arabes sont des sémites.
Non, mais il y a des langues, il y a des langues sémitiques, mais les Arabes, d'ailleurs, c'est aussi un ensemble de peuples, il y a même différentes formes de langues.
Les Arabes du Moyen-Orient...
Mais c'est un peu essentialiste de dire des sémites, c'est des peuples de langues sémitiques, comme le sont les Hébreux. Après, il se trouve que le mot est sans doute étymologiquement imparfait, n'empêche que la définition du mot, ça fait quand même à peu près un peu plus d'un siècle maintenant, depuis l'affaire Dreyfus, qu'elle est calée, qu'elle est claire, et que les gens qui se posent ce genre de questions, ben moi je m'interroge sur justement leur rapport au judaïsme ou à la judaïté.
On confond souvent l'anti-judaïsme de matrice chrétienne, l'anti-dîné. Pas
théologique, quoi.
Qui a été essentialisé avec l'apparition du protocole des sièges de Sion par le Crâna russe en 1890 et les poussières, qui, elle, a été l'objet de théorisation de l'antisémitisme. Et l'antisémitisme couvre effectivement une forme de haine de soi, c'est-à-dire bien justifier une haine de soi dans mon arabe. Par la biologie, l'explication biologique, hein. Les Arabes sont les premiers à avoir inventé une race de chevaux qui ne dégénère pas. Donc l'histoire, si vous voulez, dans l'imaginaire du monde arabe, arabo-musulman, l'idée que reprennent des gens des Lumières, qu'il y aurait une sphère éclairée, qui maîtriserait les sciences au-dessus des classes, par notamment ce genre de maîtrise alchimique, du calcul, de la géométrie, etc., etc., n'est pas étrangère à cette espèce de d'élitisme que nourrit la théorie antisémite.
Mais après, là, sur le monde arabe et son rapport historique au judaïsme juif, je ne prononcerai pas, je n'ai pas les compétences. Après, qu'il y ait un anti-judaïsme d'origine chrétienne et ou musulmane historique qui remonte à plusieurs siècles, oui. Mais l'antisémitisme a pris à partir du 19e siècle des formes beaucoup plus modernes en incluant d'autres éléments jusqu'à arriver à cette tragédie qui a été la Shoah. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans le monde arabo-musulman, pour parler au sens large, il semblerait que, par exemple, les protocoles de sages de Sion se vendent assez bien, etc. Mais je pense que c'est une des formes modernes de l'antisémitisme. C'est effectivement rattaché, comme dans le monde chrétien, à une vieille méfiance et à un vieux truc, mais c'est sans doute aussi beaucoup plus moderne. Ça s'appuie aussi beaucoup sur la question du conflit israélo-palestinien. On peut croire que le jour où ce conflit sera réglé, espérons qu'il le sera, en fait, il y aura, j'espère en tout cas, une retombée aussi de cet antisémitisme, parce qu'en fait, il y a vraiment une confusion qui existe aussi dans les esprits par rapport à ça. Israël, les juifs qui soutiennent Israël, etc. Et ça, c'est vrai que c'est sans doute un des cœurs du problème, ce conflit aussi.
On oublie de dire que les Arabes sont des sémites parce que c'est raciste. Voilà. Les gens n'aiment pas
Ben, c'est pas ça, moi. C'est que essentialiser, déjà, il y a plusieurs peuples et plusieurs langues quelque part arabes, on pourrait même étudier linguistiquement. Il y a des langues sémitiques, mais des peuples sémites, c'est comme le peuple français. Il va falloir me montrer ce que c'est quelque part. Ça n'existe pas. Enfin, il y a des langues sémitiques, comme la langue française est une langue romane d'origine indo-européenne, etc. Mais d'ailleurs, c'est l'extrême droite, à un moment, enfin, là aussi, qui a voulu associer les juifs et les arabes sous ce terme sémite. Il faut lire certains écrits de Céline à ce propos-là. Je ne les ai pas sous le nez, les écrits de Céline, là, qui sont, qu'on ne retrouve plus, là, les pamphlets céliniens. Mais il y a des vrais écrits où il associe les Arabes et les Juifs sous le terme sémite extrêmement violemment. Et donc, c'est aussi une forme d'essentialisme. Il y a des langues, moi, des peuples, ben, presque, il faudrait m'en montrer, quoi. Je ne sais pas ce que c'est qu'un peuple, ce que c'est qu'une nation, ce que c'est... Enfin, si, c'est des institutions et c'est des créations de la pensée, de la société humaine et des créations historiquement marquées et qui évoluent dans le temps. Mais c'est tout, ça n'a pas une essence ou un truc. Et après, ce n'est pas un problème, quoi, que l'humanité soit diverse et que les langues soient diverses. Et que... Mais pour moi, dire que c'est souvent un truc, oui, c'est des sémites, non, c'est des gens de langue sémitique comme les Hébreux. Mais comme tous les musulmans ne sont pas arabes, tous les juifs ne parlent pas hébreu non plus. Enfin, ça n'a ça pas de... Et comme tous les arabes ne sont pas musulmans aussi, enfin, c'est...
En fait, je suis un peu confus parce que... Vous avez cité, par exemple, le pouvoir, le bonnet souverain, peu importe. Et en fait, je me pose la question, pourquoi, en fait, justement, dans cette sphère-là, il y a, par exemple, Jacob Cohen, un révisionniste, parce que j'ai fait quelque chose dessus, comme David Cole, qui est juif aussi. Pourquoi, eux, dans ce cas-là, ils seraient classés dans les antisémites?
Si tu veux, Jacob Cohen, c'est pas parce qu'il est juif qu'il peut... Déjà, il existe des femmes antiféministes, par exemple. Donc, c'est pas un truc absolument... Il existe des ouvriers qui votent à droite. Donc, c'est pas parce qu'on appartient à une identité réelle ou supposée qu'on va pas, des fois, aller contre ses propres intérêts. Il se trouve que Jacob Cohen, par ailleurs, est un des idéologues de sa théorie des Sayanim. C'est une théorie du complot antisémite. Qu'il soit juif, après, j'y peux rien. Hein. Et après, effectivement, Soral est bien content de l'utiliser pour sa propagande. Il y a un autre cas, c'est Gilad Atzmon, qui, lui, le dit lui-même. D'ailleurs, il le dit, je suis un juif qui me hait moi-même. Il le dit texto... Et pareil, son bouquin. Oui, non, mais voilà, c'est pas une insulte. Enfin, dans son cas, on peut pas dire que ce soit une insulte puisqu'il l'assume et il le dit. Donc c'est pas du tout un. Donc voilà. Après que ça, c'est les mystères. Je sais pas de l'âme humaine, quoi. Comment est-ce qu'on peut aller à l'encontre je sais pas de ses intérêts. J'ai un copain qui a été dans les mouvances punk dans les années 80. Il m'a dit qu'il a connu des métis qui rejetaient le côté noir en eux ou qui. Enfin, tu vois. Ça, c'est après. Voilà. C'est comment dire quoi comme il y a des homosexuels au Front National comme j'en sais rien tu vois c'est des choses ça après sans doute parce que c'est pas aussi la ce qui leur importe le plus dans la façon dont ils se perçoivent eux-mêmes aussi c'est peut être secondaire par exemple on peut-être que c'est que des gens qui seraient au Front National en étant femmes ou homosexuelles, ben, pensent qu'en fait, il est plus important de défendre des valeurs nationales et des machins que de défendre l'IVG, de défendre le mariage pour tous, ou j'en sais rien, quoi. Et peut-être qu'ils le pensent, qu'ils sont prêts à se sacrifier pour la cause, je sais pas, quoi. Il faudrait leur demander, hein.
Mais quand tu parles de tous ces gens-là, est-ce qu'ils ont organisé un complot?
Non, c'est pas un complot, pourquoi?
Quelle est la relation avec le thème de ce soir, conspiration?
C'est-à-dire que c'est des gens qui tiennent des discours, entre autres, conspirationnistes, pas seulement.
Conspirationniste, ça va vers tuer des gens.
Mais non. Conspiration. Pas forcément, il y a des complots qui conduisent pas au meurtre de gens. Enfin,
en principe, un complot conduit à un meurtre.
Pas forcément. Mais non, pas forcément. Mais non, les gens peuvent s'organiser même. Mais non. Je m'organise avec un ami pour tricher un examen. Ben, c'est un complot. Ben si, c'est un complot à ma petite échelle et je tue personne. Enfin, oui, mais c'est un complot pour tricher. Si tu veux aller par là, c'est.
Non. C'est une tricherie, c'est pas un complot.
Le complot conduit pas forcément.
Sur les mots, là.
Enfin, puis je vois pas le sens de la question, en plus.
Une signification.
C'est quand tu dis coup.
Non.
Voilà.
Oui, mais enfin, on va pas, hein, on va pas, enfin, il y a le sens étymologique originel des mots, il y a aussi le sens courant qu'ils prennent, enfin, on va pas à un moment, les mots peuvent être aussi polysémiques, c'est d'ailleurs ça qui est intéressant à discuter, c'est d'ailleurs là-dessus, voilà. Que, c'est de ça dont on discute depuis tout à l'heure, et c'est d'ailleurs sur cette polysémie que joue un certain nombre aussi, par exemple, le mot « peuple ». Typiquement, mieux vaut parler de prolétariat et de bourgeoisie, parce que le mot peuple, et ça c'est utilisé, mais on retrouve chez des gens qui sont a priori éloignés sur ce spectre politique, comme Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, en jouant à la fois sur les mots en tant que classe sociale populaire, donc prolétariat, on va dire, et le peuple nation, quoi. Et même chez Lordon, et Lordon, il veut clarifier ça, mais c'est pas très clair quand on lit bien. Et ils emploient indifféremment, tous ces gens, les termes de nation et de peuple dans des sens, même l'idée qu'il y aurait une nation en version républicaine de gauche, et une nation qui serait la nation ouverte et qui tolérerait qu'on serait citoyen par adhésion libre, qui n'a jamais existé, sauf à des moments très restreints de l'histoire de France, quoi. Et puis, sinon, le peuple ou la nation organique, et ça, en fait, c'est bien pratique aussi, ces mots-là, notamment ce mot peuple, quoi.
Pire, c'est les gens.
Oui, alors ça, ça veut encore moins dire, c'est très général. C'est ça, ça, les gens, dans le langage courant, je sais pas, en termes politiques, je vois même pas comment on peut l'employer, quoi. Oui, mais enfin, dans un électeur du Front National, ça va résonner autrement. Oui, oui. Mais dans l'esprit d'un électeur du Front National, y compris de votre âge, madame, mais oui, non, mais c'est pas autre chose. C'est-à-dire que le peuple est un terme polysémique. Il a plusieurs sens. Et chacun peut lui donner un peu aussi, effectivement, le sens qu'il veut. Et c'est ça qui intéresse aussi au niveau théorique et les confusionnistes, de droite comme de gauche, c'est de jouer sur les mots. Et il faudrait que je trouve des exemples de citations. Je dois avoir ça dans un de mes articles où on voit très clairement chez des gens comme Lordon ou chez d'autres qu'ils emploient le peuple indifféremment au sens, selon que ça les intéresse, de synonyme de prolétariat, classe populaire, classe sociale, et au sens de la nation comme étant la nation française, d'une manière un peu mystifiée, en fait, complètement. C'est pour ça, en fait, le piège un peu des mots. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus les employer, mais qu'il faut faire attention dans quel sens, dans quel contexte on les emploie et avec quel... Moi aussi, j'emploie le terme classe populaire, peuple, j'ai du mal, par contre, je dois dire, hein, mais classe populaire, oui, ça m'arrive de l'employer, parce que c'est compris dans le langage courant en même temps aussi, quoi. On ne va pas non plus faire plus sectaire que ceux qu'on... Mais peuple, je dois dire que je l'emploie très rarement, voire pas du tout, c'est trop...
T'as raison. J'entends le mot peuple, je me demande si les mauvais cours on prépare contre la classe de...
Oui, c'est un peu ça, oui, vous avez... Oui. Oui, oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est pas pour rien que, par exemple, Mélenchon inclut dans le peuple aussi les petits patrons. Il soutient les petits patrons. Hein.
Là, à propos, dans ton texte sur Nuit debout, il y a ce concept assez nouveau de auto-exploiter. Qu'est-ce que ça...
Ah oui, on n'a peut-être pas expliqué, en fait, dans notre esprit, c'est auto-entrepreneur. C'est vraiment, tu vois...
Alors, c'est à la limite d'artisan, ça.
Ah, pas du... Non. Non, non, pas du tout. Ah non, l'autre... Non, l'autre... Non, c'est vrai que c'est peut-être une erreur et tu fais bien de la signaler, mais pour nous, c'est dans le sens de cette nouvelle catégorie, on va dire, qui... Je sais pas comment qualifier ça, c'est vraiment... Pour moi, c'est plutôt du côté du prolétariat, puisque c'est employé par les employeurs pour pas salarier les gens, l'auto-entrepreneuriat. C'est pas un statut même de société unipersonnelle ou même une société d'artisanat sera pas sous statut d'auto-entrepreneur. C'est vraiment des boulots précaires, comme livreur sur des vélos à Paris. Là, il y a tout un tas de boîtes, comme Uber, comme des choses comme ça, en fait. C'est ça. Donc, c'est une sorte... Évidemment qu'il faut penser l'évolution de la société et qu'on ne doit pas être arc-bouté sur nos anciennes définitions aussi non plus. Mais pour moi, ça, c'est plutôt des gens plus proches du prolétariat que même du petit patron, les auto-entrepreneurs. Bien que souvent, il y en a qui adhèrent tout à fait à l'idéologie libérale qui a présidé à la création du truc, quoi.
Ça prépare le compte personnel d'activité.
Oui, c'est ça, exactement. Mais auto-exploiter, c'est au sens où, en fait, sur le papier, vous avez votre entreprise, mais en réalité, vous n'êtes pas du tout maître de votre travail, ni de votre temps de travail, ni de vos conditions de travail, et tout le risque repose sur vous. Vous n'avez pas de chômage, vous n'avez pas de retraite, vous n'avez pas de sécu, il vous arrive un accident du travail, c'est pour votre pomme, en fait. Donc c'est en ce sens-là. Mais c'est vrai qu'on aurait dû l'expliciter, c'est une erreur, c'est qu'entre nous, quand on a travaillé le texte, on l'emploie entre nous, et c'est vrai que c'est pas un mot qu'on emploie dans le langage courant, et qu'on corrigera, du coup, pour définir la chose.
Est-ce que Lordon a lu vent de vos écrits ?
Oh, j'imagine qu'il les a lus, ça m'étonnerait beaucoup qu'il les ait pas lus, vu la polémique qu'il y a eu. Après, je n'ai pas eu de retour de Frédéric Lordon. Mais je pense qu'il n'y en aura pas, d'ailleurs. C'est quelqu'un d'assez intelligent, Lordon, pour savoir ne pas répondre quand c'est nécessaire ou alors devancer les critiques. Et je pense qu'un texte comme ça, il ne répondra pas. Mais je ne suis pas la seule à avoir formulé ce genre d'analyse. Par exemple, sur l'analyse qu'il a de l'internationalisme ou de l'anarchisme, Le Monde libertaire a publié aussi un texte assez rigolo où il résume la chose très bien. Il dit que ce qui est navrant, c'est en gros, ce n'est pas tant que Lordon en sache si peu sur l'anarchisme, mais qu'il en sache si peu avec autant d'aplomb. Et ça résume tout à fait le livre de Frédéric Lordon,
c'est les confusionnistes qui sèment la confusion, c'est ça qu'on reproche.
Oui.
Mais c'est eux qui sont confus, en fait, comme on ferait.
Ben oui, mais c'est-à-dire que c'est normal, enfin, oui, on sème la confusion par la confusion, enfin, je sais pas comment...
Je peux mettre la pratique d'Internet pour aussi proche du confusionnisme pour la scène... un mensonge évident qui est que si tu l'as dit matin, fais l'éloge de la police, par exemple.
Je sais plus, c'est pas la partie que j'ai rédigée, je crois. Ceci dit, là. Attends, je vais essayer de retrouver. Après lundi matin, après le 13 novembre. Je suis désolée, mais lundi matin, après le 13 novembre, a sorti un texte aux tonalités soralienne absolument dégueulasse. Et puis, je ne sais plus à quel article précis ça faisait référence, là, enfin, je le recherche, mais parce que du coup, je ne l'ai plus en tête.
Par rapport à l'Éric Cazan, ses interventions...
Oui, il a publié la tribune d'Éric Cazan. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un jeu avec la Fabrique. Lundi AM, c'est un peu un site issu de la Fabrique et ici du Comité Invisible. Par exemple, quand Ria Boutelja vient sortir son livre, on a eu une opération promotionnelle dans Lundi AM avec Éric Cazan défendant le livre et Yvan Segré, qui est aussi édité à la Fabrique, tapant sur le livre, tout ça. Enfin, c'est un peu, ça fonctionne un peu comme une écurie. Et c'est vrai qu'Éric Cazan a publié une tribune disant qu'il faut dire la police avec nous, etc. Ce sur quoi, moi, je ne suis pas d'accord. Après, on est libre de pas être d'accord avec moi sur ce sujet-là, mais pour moi, je veux dire, puisque je cache pas non plus d'où je m'exprime, c'est-à-dire qu'y compris quand j'écris ce genre de texte, je m'exprime d'un point de vue, je sais pas comment le définir, on va dire communiste libertaire, moi je j'invigue entre le marxisme et l'anarchisme, je me suis pas bien décidée encore si j'étais plutôt anarchiste, plutôt marxiste, enfin, et donc du coup, pour moi, par contre, ce qui est sûr, c'est que je suis anti-autoritaire, et la police, en tant qu'institution sociale, et vu son rôle social, ne saurait être une alliée. Je ne parle pas là des individus policiers qui font ce métier pour x ou x raisons, mais de la fonction sociale de la police. Et que dire la police avec nous, en plus dans le contexte actuel, et publier une tribune comme ça, ben oui, je suis désolée, c'est bien faire l'éloge de la police et de la répression. Il n'y a pas trop d'ambiguïté. Après, on peut...
Sur la base d'une tribune, d'un individu sur ce site, tu dis le site...
Le site, j'ai écrit... J'ai dit... Attends, j'ai pas dit... On n'a pas écrit que ça, là, j'ai l'article... Non, j'ai l'article sous les yeux, lundi AM, qui navigue entre autonomisme, situationnisme et éloge de la police, servant de caution radicale à la maison d'édition opportuniste. On peut ne pas être d'accord avec le terme, la Fabrique. C'est vrai qu'il y a un ton un peu satirique qui n'est pas d'ordinaire sur mon site, mais là, on l'a écrit à plusieurs. Donc, si tu veux, après, on peut ne pas être d'accord avec cette analyse, mais n'empêche qu'on n'a pas dit que ça de lundi AM. On définit, effectivement, en trois lignes, on n'a pas après détaillé, c'était déjà un gros boulot, mais on pourrait y reconsacrer un article, hein, si vous voulez, à lundi AM, pourquoi pas. Mais disons qu'on définit, on essaie de définir de manière courte, d'ailleurs, dans un paragraphe qui définit plusieurs médias, qui essaie de les citer dans le champ politique, comment nous on définit ce truc. Après, on peut ne pas être d'accord avec la définition qu'on en donne, mais de fait, il se trouve que lundi AM a publié une tribune, effectivement, prônant l'alliance du mouvement social avec la police. Donc après, on interprète ça comme on veut. Mais c'est pas moi qui l'ai écrite, hein. Personne ne les oblige à publier ça non plus. Hein.
Marc, les vieilles lunes des années 30 reviennent, parce que c'est effectivement le propre de la CGT. Après 36, nous tient les flics avec nous.
Oui, mais moi, je ne suis pas...
La classe contre classe revient, qui était une des errances des staliniens à la fin des années 20, qui se rabattent sur le fond.
Mais moi, je et suis...
Les classes contre classe, ben, là, on nous voit réapparaître.
Mais...
Dans la confusion.
Oui, mais...
Il y a des remontées du passé...
Mais moi...
moi, je suis très critique vis-à-vis de toute la période stalinienne. Et d'ailleurs, il existe encore des staliniens au sens propre du terme, c'est-à-dire des nostalgiques de Staline, des gens qui vont expliquer ou relativiser, soit dire que les goulags, c'est largement fantasmé, soit dire que des gens comme Annie Lacroiry, des gens comme même Alain Badiou, dans une certaine mesure. Voilà. Et après, il y a tout, effectivement. On sait très bien que la CGT, le PC, historiquement, ont été très liés à cette tradition-là. Et moi, par exemple, c'est pas... j'ai aucune sympathie pour ça, moi, des retours de trucs. C'est pas parce que la CGT en 36 a dit la police avec nous. D'ailleurs, en 36, elle a aussi été dépassée par ça. Mais moi, c'est même en 36, je t'aurais dit, ben non, la police pas avec nous. Si tu veux, c'est pas trop la question, en fait. C'est... Non, c'est ce que je disais. On peut le faire dater, on peut le faire remonter en France, c'est ce que je disais, avec le boulangisme à la fin du 19e siècle, dans les années
1890. Alors, où est donc la théorie du
pour
l'État?
Bah, nous.
Ça n'a rien à voir.
Si.
Attends, c'est des gens qui défendent des idées nationalistes, interclassistes, etc., en se faisant passer pour des gens d'extrême gauche.
Ou en utilisant de gauche,
en même,
même
temps des idées d'extrême gauche. Là, on ne parle pas de pureté. On ne parle pas de pureté d'idées du prolétariat. On ne parle pas d'être de telle tendance communiste ou de telle tendance anarchiste.
Non, mais,
c'est une façon pour l'extrême droite de propager ses idées dans l'ensemble de la population, y compris dans les luttes sociales.
Je veux dire que et
c'est dangereux.
Si elle étanche, elle se fait infiltrer.
Mais il n'y a pas que la théorie du prolétariat, enfin. Parce que à la limite, on peut, et ça existe sur le terrain, qui est des alliances dans les luttes avec des orgas qui sont pas, qui se revendiquent pas du prolétariat ou qui sont réformistes. C'est pas tant ça. Je veux dire, ça peut être tout à fait, c'est tout à fait justifié. Pourquoi pas sur telle ou telle lutte. Le problème, c'est justement le fait qu'il y a et la confusion arrive notamment par le réformisme, mais pénètre jusque chez les anars. Pénètre. Il y a même des anars qui des fois vont défendre une certaine vision de l'État. Du point de vue anarchiste, c'est de la confusion. On est libre de ne pas être anarchiste, mais enfin, si on se situe dans cette optique-là, donc c'est assez large. Je ne dis pas qu'il faut rejeter, pas s'allier, et puis la réalité des luttes est complexe, mais il faut être vigilant. Il faut être vigilant dans nos organisations diverses et variées. C'est pas, après, je ne vais pas vous dire. Ceci dit, moi, je pense qu'il y a quand même des limites et qu'il y a autant, par exemple, on peut tout à fait accepter d'être avec des militants du Front de Gauche ou de je ne sais pas quoi sur des luttes, parce qu'en plus, c'est des gens souvent qui sont du terrain, qu'on connaît, etc. Mais par exemple, les colibris, accepter les colibris, au final, même si ce n'est pas comme ça qu'il y paraît au départ, on accepte une idéologie réactionnaire. Hélas, là, on est tout de suite sur un autre terrain aussi. Il faut quand même...
La CGT nucléophile. La CGT qui...
Mais c'est-à-dire que la CGT, c'est une organisation, déjà, c'est une organisation de travailleurs pour défendre leurs travailleurs, les travailleurs. Ensuite, oui, non, mais... Attends.
Le compromis Staline.
Je pense que
nationale de la souveraineté.
Non, mais il y a la ligne. Il y a la ligne de la CGT, de la tête. Attends. Non, mais moi, je ne collabore pas avec la CGT, pas plus qu'avec d'autres. Je ne défends pas la CGT. D'ailleurs, je ne suis pas à la CGT. Je suis dans un autre syndicat que je ne citerai pas. Mais tu me laisses un peu répondre. Mais si tu veux, le problème, c'est que tu as la ligne politique affichée, peut-être, si tu veux, par la tête de la CGT, encore que là, actuellement, elle est plutôt sur la loi travail, même s'il y a eu des dérives sur les manifs, le rôle du SO qui a été discuté, là, actuellement, avec les blocages de raffinerie, je ne vois pas comment on ne peut pas applaudir à l'action de la CGT. Et après, il y a aussi les gens... Moi, je fais la différence entre, aussi, quelque part, les organisations, ce qui est prône, et les gens sur le terrain, et qui, des fois, ne sont pas en accord avec la ligne de leur organisation. Et avec... Moi, je suis beaucoup plus indulgente, par exemple, même avec des ouvriers qui auraient... Ou des gens, j'en sais rien, qu'avec des espèces d'intello qui ont fait plein d'études, et puis qui, eux, ont une stratégie de confusion, d'infiltrer... C'est-à-dire qu'après, les gens... Et puis après, je suis désolée, quoi. Tous les militants ne sont pas sur la ligne, forcément, sur tout. Et c'est après à nous de réfléchir à quelles alliances on fait, sur quelle base. Et moi, je ne vais pas vous donner des recettes. Je ne suis pas là pour faire l'idéologue. Simplement, il faut en discuter entre nous quand on est dans des organisations et dans des luttes. Et puis voilà. Et puis après, on décide. Après en avoir débattu, on décide. Peut-être qu'on exclura la CGT, j'en sais rien. Ce qui me semblerait un peu absurde d'exclure le premier syndicat ouvrier, quoi qu'on en pense, sur les luttes sociales. Pour s'allier avec qui, du coup,
je sais pas, hein, mais c'est vrai qu'à un moment, il y a aussi un peu un truc, un peu aussi derrière, c'est politique, la légitimité quand même du mouvement ouvrier, et puis, ou même des mouvements de chômeurs, ou des mouvements des gens qui, en tout cas, subissent de plein fouet la violence du capitalisme. Si on commence à les exclure, il y a un problème, quoi. Après, qu'on puisse leur dire, ben là, politiquement, je trouve que tu déconnes, ou que vous déconnez, que c'est OK, quoi. Et d'ailleurs, c'est un peu aussi la vocation... un peu de mon site, hein. Des fois ça, on se le prend en plein, effectivement je conçois dans la gueule, mais c'est pas de dire bon on va lutter chacun dans son coin tout seul, ce qui revient à pas lutter du tout quoi, hein, mais c'est plutôt de dire soyons vigilants, discutons et faisons attention quoi à nos références, à nos et puis corrigeons-nous aussi. C'est pas parce que c'est pas parce que tel ou tel orga, tel ou tel individu déconne à tel ou tel moment qu'il va rester sur cette ligne-là. Enfin, on peut avoir aussi espoir en l'humanité de manière générale, quoi. Ça, ce sera la note positive de la fin. Mais
une analyse d'une situation concrète, ça permet aussi de séparer, de réunir et d'avoir autre chose que des éléments de linguistique ou...
Mais les deux sont importants, c'est-à-dire que...
Mais je veux dire, donc... je voudrais te poser cette question. Est-ce que tu ressens aujourd'hui, dans la situation économique, politique, cette ouverture vers un État autoritaire, accepter l'autorité?
C'est un gros risque.
Tu vois ? Alors, est-ce que tu peux revenir là-dessus ?
Ben, c'est mon ressenti, si tu veux, que je ne peux pas te prédire l'avenir. Non. Ça, c'est... Ça, ce serait bien présomptueux et idiot. Non, mais je pense que c'est un gros risque. C'est-à-dire qu'il y a une crise là, grave du capitalisme. On ne sait pas trop s'il s'en remettra ou pas, mais même s'il s'en remet, ce sera sans doute que temporaire. Qu'est-ce qui va en déboucher ? Ben, ce n'est pas forcément la révolution sociale. Hein. Et d'ailleurs, il y a des expériences historiques. Ce n'est pas qu'il faille forcément faire des parallèles. Et en fait, en réalité, ça se produira sans doute tout à fait d'une autre manière. Mais par exemple, dans les années 30, la solution qui a été trouvée à la crise des années 30 a pu être, dans certains pays, le fascisme ou le nazisme. Aux États-Unis, ça a été